La France a connu en fait cet été à peu près tous les problèmes que nous promet le GIEC et qu'on écoute d'une oreille distraite en se disant « Allez, c'est juste des gens qui sont, doivent être un peu pessimistes ». Et là, on a eu droit à tout.
Épisode 1. Souviens-toi, l'été dernier, quand le changement climatique est arrivé près de chez nous.
Fait comme là, on marche, on sort de la bagnole. Et...
Normalement, même un jour où il fait chaud comme aujourd'hui, on devrait entendre le chant des oiseaux. Mais ce qu'on entend effectivement, à part le bruit de voiture et quelques grenouilles au loin, c'est absolument silencieux. J'ai jamais entendu cette nature aussi silencieuse.
C'est les mêmes observations, ouais, c'est clair. Le milieu très silencieux, ouais. Pas un petit passereau, même pas un petit passereau qui passe à côté. C'était vraiment, vraiment, vraiment étrange comme sensation. Surtout en plein été où les jeunes oiseaux sont censés voler un peu partout. Donc c'est vrai que c'était un peu assez étrange. Ouais.
Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver pour une quatrième saison à cavaler sur les traces de l'Anthropocène, et qui commence sur une sensation de déjà-vu, une mise en abîme. En plein reportage dans les restes calcinés des monts d'Arrée en Bretagne, je me suis senti obligé de sortir mon téléphone et de faire entendre à mon interlocuteur qu'il était en train de me dire, mot pour mot, ce que j'avais déjà entendu devant un même paysage de cendres en Australie, 3 ans auparavant, à plus de 14 000 km de distance, les mêmes mots pour décrire une même réalité du changement climatique. Sauf qu'il s'est depuis rapproché. Depuis l'été dernier précisément, cet été 2022, que Météo France a qualifié d'historique. 87 records de température maximale dépassés, 33 jours de canicule en tout. Pour la première fois, notre pays a eu un avant-goût grandeur nature des records de température et de sécheresse avec leur cortège d'incendies et de manque d'eau. Et un réveil brutal à l'idée que cet enchaînement de catastrophes pourrait très vite devenir la norme. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil pour le climat, dans son dernier rapport sorti cette semaine, qui souligne que les années extrêmes de ce type deviennent de plus en plus fréquentes et vont encore s'intensifier. Et de conclure, la température record de l'année 2022 correspond à la température moyenne en France à l'horizon 2050-2060. Alors en ces temps de chasse à l'écoterroriste et au Khmer Vert, on a voulu, avec Clément Nouguier à la réalisation, revenir sur ce qui nous est arrivé l'été passé. Une heure entre deux parcs naturels, à deux extrémités du pays, des monts d'Arrée en Bretagne au massif des Écrins dans les Alpes, deux géographies complètement différentes, mais on se pose le même genre de questions. Et on va commencer cet itinéraire dans le Finistère, où les incendies ont consumé plus de 20% de la lande du parc naturel d'Armorik. Si les déclenchements des feux semblent criminels, c'est sur fond de chaleur et de sécheresse inédite que la braise a connu un été de braise. Je reviens du monde d'avant tous les week-ends de l'été sur France Inter. Premier épisode, souviens-toi l'été dernier, quand le changement climatique est arrivé près de chez nous.
Fini le masque, place à la détente. Après 2 années marquées par la pandémie, les Français renouent avec l'insouciance.
On n'est pas bien ?
Si.
Paisible. À la fraîche.
À 16h, il faisait 37 degrés. C'est le 18e jour de canicule depuis début juin.
À nouveau, la France s'apprête à suffoquer. Plus de 36 degrés attendus cette semaine.
Il fait chaud, j'ai chaud tout le temps, la nuit, le jour, j'ai chaud.
Par endroit, les 40 seront dépassés.
Un record.
Ah, ce que j'ai chaud. Bah moi aussi.
Ah, ce que j'ai chaud, ce que j'ai chaud.
Oh, c'est la vie.
Des arbres calcinés, une épaisse fumée blanche et un soleil encore bien rouge.
Un immense panache de fumée.
La forêt est toujours la proie des flammes.
Un feu toujours incontrôlable.
Les flammes dévorent la forêt depuis 5 jours. 10 000 hectares ont déjà été ravagés.
Tout est brûlé.
J'aimerais bien que l'on m'offre un soda. Pour la soif, rien ne vaut le défroi. C'est une glace, mes amis, qu'il nous faut.
Dernière astuce pour changer des glaces. Une tomate fraîche, on n'y avait pas pensé. Sans oublier de profiter des joies de l'été, avec un peu d'insouciance.
Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance.
Ah, il fait chaud, il fait chaud pour marcher. Ah, il fait chaud, il fait chaud.
France Inter.
Cette année,
je reviens du monde d'avant.
Ah. Là, on est en plein cœur Finistère, là, c'est ça?
Ah oui, oui. On est à Sarrivoile, là. Donc, c'est une petite commune des Monts d'Arrée qui est encaissée au milieu de la montagne. Là, on l'aperçoit sur le côté déjà.
Et on voit sur les maisons les dates, là, 1891.
Comme un îlot soumis au fracas des embruns, voici les Monts d'Arrée.
Alors, vous avez un magnifique menhir, typiquement breton dans le champ. Là. Donc, on a deux sortes de montagnes, les Rores et les Ménés. Ça, c'est le Yonelez, c'est le marais des anges.
Ici, la terre a conservé la mémoire. Toutes les couches de l'activité humaine sont encore inscrites dans le paysage.
Il y a des légendes, il y a du mysticisme, il y a de la religion, il y a du symbole. Et puis, les gens des Monts d'Arrée sont très, très attachés à leur paysage et à leur lande.
Et parlez-moi de vous, alors présentez-vous en quelques mots.
Alors, moi, je m'appelle Jean-Noël Ballot, je suis bénévole de Bretagne Vivante. Et je recense les oiseaux des Monts d'Arrée depuis une quarantaine d'années. Donc voilà les surfaces incendiées.
Et c'est moi ou on sent encore l'odeur du brûlé?
On sent le brûlé, oui, on sent l'odeur du brûlé. Hein. L'incendie est éteint officiellement depuis aujourd'hui.
Ah bon?
Oui, c'est le communiqué est sorti ce matin. Donc,
mais comment ça se fait? C'était mi-juillet?
Fin juillet à peu près. Mais ici, on a des tourbières. Hein. Et quand le feu prend dans la tourbe, il peut brûler pendant des mois.
Sous terre?
Sous terre, on voyait des fumerolles, hein. il y avait des fumerolles un peu partout. Puis là, il s'est mis à pleuvoir depuis une petite dizaine de jours, là. Donc effectivement, ça a achevé d'éteindre l'incendie.
Ah ouais, c'était vraiment...
Donc voilà le Yonelez, qui était le marais de l'enfer. Et vous voyez le lac qui est pratiquement à sec avec la sécheresse, d'habitude il est plein. Et là, il ne reste plus qu'un mois d'eau.
Un mois d'eau de réserve.
Oui, pour fournir la population en eau potable.
Ici, en plein cœur, dans la Bretagne, dans une des zones qui avait la plus forte pluviométrie.
Exactement. Et ici, dans les Monts d'Arrée, il y a plusieurs communes qui n'ont plus d'eau potable. Ils n'ont plus d'eau depuis un mois. Et donc, ils sont obligés de se ravitailler par camion-citerne.
Comme dans le sud de la France, comme dans le Var en plein été.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On commence à avoir les mêmes problématiques. Personne n'aurait imaginé il y a encore un an que des communes puissent manquer d'eau potable. Seulement, on a eu des sécheresses en 76, en 2003, mais pas à ce point-là. Quoi. Donc on commence à se poser la question de l'entretien des landes également, puisque si ça brûle, c'est parce que les landes évoluent vers un stade. Et donc, voilà, parce que la lande rase, c'est quand même un coup de feu. Quoi. Donc voilà le paysage.
Ah, ça change là, le paysage. Il y a un décalage entre le son... Et la vue même aussi, parce qu'on a un peu l'impression d'être dans un nuage.
Oui, le paysage a d'abord souffert de la sécheresse, qui l'a bien préparé pour l'incendie. Bon, la pluie arrive un peu tard pour éteindre les feux, mais elle aide la végétation à repartir. Et au printemps, il y a beaucoup d'endroits où on aura plutôt une végétation rajeunie. Je m'appelle François de Beaulieu, je suis plutôt... du côté de l'ethnologie, dans la compréhension, la connaissance des landes et justement de la place que l'homme a pris dans la création des landes à l'intérieur de la Bretagne. Sur le littoral, on a des landes qui sont entretenues, on pourrait dire, par la nature, dans leur état ras. Mais là où on est, dans les Monts d'Arrée, les landes ont été créées par l'homme à la suite des défrichages de la forêt. Depuis le néolithique, petit à petit, les hommes ont progressé. Et derrière eux, des oiseaux comme les courlis, les busards, ont trouvé leur place. Tout ça, c'est une communauté où il y a des hommes et des bêtes, et des plantes.
On ne peut plus s'arrêter, on va essayer de faire un tour dehors pour voir à quoi ça ressemble ce paysage aujourd'hui.
Oui, oui, ce que les nuages nous laisseront voir.
Enfin, la pluie s'est arrêtée, pas vraiment, hein.
On va souffrir.
Là, on va souffrir.
On va souffrir. Et on va à l'abri de la chapelle.
C'est dans ça. C'est impressionnant. On monte le long de ce mont-là qui culmine à 380 mètres, ce long d'un petit sentier. Et on voit le noir, noir, noir de la cendre qui en plus est rendue plus compacte par la pluie et plus brillante par la pluie. Quelques rochers blancs qui ressortent. Et là, juste à ma gauche, quelques petites fougères qui pointent le nez. Toute cette colline, c'est celle que tous les journaux ont mis en une cet été, quand la vague de chaleur et l'incendie touchent les monts d'Arrée en Bretagne.
C'est le plus grand feu que le Finistère ait connu.
1700 hectares de landes bretonnes, carbonisées.
Au milieu de ce paysage lunaire,
au milieu d'un brasier géant et d'hectares carbonisés,
cette petite chapelle, seule rescapée des flammes.
Elle a finalement résisté à l'assaut des flammes.
Ah bah là, c'est fini la sécheresse, là.
Oui, y compris pour nos pantalons.
Ouais, là c'est... Waouh. Comment parler d'une chose tout en... expérimentant tout le, son opposé.
Oui, là, on passe de la canicule au déluge.
Ouais.
Et comme on est dans la chapelle Saint-Michel, on peut faire quelques liens bibliques. Enfin, franchement, c'est le déluge, là. Alain Thomas, je suis un vieil adhérent aujourd'hui de Bretagne Vivante. Toujours fidèle aux objectifs de l'association. Et voilà, on est au cœur du parc régional, au cœur de cette cuvette du Yonnelès qui voit depuis des décennies généralement tous les naturalistes bretons venir ici et assurer semaine après semaine l'inventaire de la biodiversité dans ce qui est le plus important réservoir de biodiversité en Bretagne intérieure.
Le parc, les Landes et les Tourbières font 8000 hectares à peu près, mais c'est le dernier ensemble, quasiment d'un seul tenant. Il faut savoir qu'il ne reste que 14 000 hectares de Landes pour toute la Bretagne. 14 000 hectares, tout le monde ne se représente pas ce que ça fait, ça tient dans un carré de 12 km sur 12. Hein, alors on a ici un peu plus que la moitié, et c'est dire l'enjeu patrimonial et la responsabilité de notre génération pour protéger cet ensemble.
Et quand on se penche un peu sur la flore, sur la faune, eh bien on réalise qu'on a là des cortèges d'espèces. Et pour beaucoup de ces espèces, ce sont parfois les derniers secteurs où elles sont présentes. Il faut savoir qu'il y a 30 ou 40 ans, la Bretagne abritait environ 300 couples de courlis cendrés. Et à force de voir évoluer ces habitats, drainés, transformés en sapinières, etc., etc., il nous reste grosso modo aujourd'hui en Bretagne et uniquement dans les monts d'Arrée 15 à 20 couples de ces oiseaux. Donc aujourd'hui, on est sur le fil du rasoir. C'est pratiquement là, on est au seuil de la disparition de l'espèce. Et donc, les incendies sont survenus là-dessus, donc on attend avec fébrilité, avec crainte, la réinstallation de ces derniers couples l'année prochaine. Mais encore une fois...
Viendront-ils ou ne viendront-ils pas? Et s'ils viennent, trouveront-ils de quoi manger? C'est ça un peu les questions que vous posez.
L'un d'entre eux est équipé d'une balise GPS. Il est du côté de Lisbonne. Pendant toute cette période, il va chercher des invertébrés, des petites coques, etc. Ce qui fait qu'ici, d'ailleurs, quand il va revenir au mois d'avril... Eh bien, l'équivalent de cette faune, à commencer par les escargots, ils ont tous cramé, là.
Il a eu de la chance. Il faut espérer qu'il en aura aussi au retour, parce qu'il faut se rappeler que cette espèce reste chassable et que tous les autres courlis équipés de GPS en France se sont fait descendre dans leur descente vers le sud. Je crois que quelque chose a changé déjà, en tout cas en Bretagne, c'est-à-dire que ce qui était considéré comme des friches sans grand intérêt sont devenus un élément du patrimoine de la Bretagne. Et puis, le caractère spectaculaire des incendies. On est dans aussi l'émotion. Et du coup, les autorités ne peuvent pas faire comme si c'était pas si grave. Voilà, parce que beaucoup de personnes, effectivement, se sentent émotionnellement profondément atteintes. Et il se trouve que ça correspond à une réalité de perte patrimoniale essentielle et que ça remet sur la table tous les éléments d'une bonne protection des monts d'arrêt.
On voit si c'est calmé, si on peut redescendre ou...
Les monts d'arrêt sont encore et pour longtemps, espérons-le, un territoire simplement plus humain.
France Inter.
Dans les monts d'arrêt en Bretagne, Daniel ou le guet pastouron. S'en va rôdant par la campagne avec sa chèvre et son chevreau. Le loup rôde pastoureau, garde ta chèvre et ton chevreau. Le loup rôde Daniel, garde ta chèvre du loup.
Je reviens du monde d'avant. En Bretagne, quand la lande brûle.
On continue notre retour sur les monts d'arrêt. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Sylvain?
Bonjour.
Enchanté.
Bonjour.
Vous allez bien?
Bienvenue à Saint-Rival.
Merci beaucoup.
Bon, vous avez fait beaucoup de route?
Oh, pas trop, non. Mais je me suis fait rincer, par contre. Tout à l'heure, là, j'étais en haut de Mont-Saint-Michel.
Ah oui, oui, oui. Si on avait pu avoir ça il y a un mois, ça aurait été bien. Hein, mais bon.
Bonjour.
Avec un peu de décalage.
Give.
Myriam.
Donc, lui, c'est Léo. Lui, c'est Léo, le gros chat. Et notre fils Tim qui est à l'intérieur là. Donc ici on est au GAEC Black Angus Farm de Saint-Rival. Moi c'est Sylvain Le Trust et ma femme Myriam. Saint-Rival c'est un petit village hein, dans les monts d'Arrée, à peu près 200 habitants. Alors nous on a 130 bêtes en tout, il y a 115 bovins et 15 chevaux. Donc toute l'année à l'herbe, au pâturage. Là il est temps qu'on reprenne, il est temps qu'on reprenne parce que faire le pompier pendant 2 mois c'est un peu galère et mais bon après c'est...
Mais il faut que je vous décrive quand même parce que là vous arrivez, vous êtes en total treillis.
Moi, je suis en tenue de combat depuis 2 mois, depuis le 18 juillet, quasiment en treillis avec des bottes qui prennent pas feu, enfin voilà parce qu'on a quand même été dans les flammes, hein, ça c'est clair, avec les moyens du bord, avec des branches, avec des battes à feu, avec des pelles, avec des seaux, des arrosoirs, des tonnes à eau, parce que là il n'y avait vraiment plus de moyens pompiers. Sur place, parce que c'est ce qu'il a manqué, nous, sur notre territoire.
On n'avait pas la culture de ces gros incendies aussi intenses, quoi.
Je sais pas trop, parce que moi j'ai fait 15 ans de pompier avant, donc le feu je le connais un peu, mais le problème c'est qu'avec tous ces incendies au même moment, tout le monde a été sursaturé, débordé, et les canadaires, on les a pas vus venir.
Parce qu'avant vous alliez au feu, et maintenant c'est le feu qui est venu à vous, quoi.
Ah, il est malheureusement venu pratiquement jusqu'à chez nous. Mais j'ai l'impression d'avoir vu un film de l'apocalypse en fait. On voyait la maison, on voyait les flammes derrière. Quoi. Donc, moi, quand je revois les vidéos, mais non, je dis c'est pas possible, c'était pas chez nous. Quoi. Mais...
Oui, il y a un côté vu à la télé. Quoi. Tout d'un coup, c'est arrivé près de chez vous.
Ah ouais, c'est arrivé près de chez nous. On peut faire une émission comme ça. Ouais. On prend ça sur le ton de la rigolade, mais des trucs comme ça. Moi, je pensais pas qu'en 2022, on pouvait vivre ça. Enfin, on est en train de se poser des questions, de faire des réserves hivernales en fait pour passer au moins les 3 mois d'été avec de l'eau en réserve, en stock. Quoi.
Et ça, j'imagine que c'est pas un facteur qui était en premier, en haut de la liste quand vous avez choisi de vous installer ici. Comment s'adapter au changement climatique et aux pénuries d'eau?
En fait, le changement climatique, je pense qu'on l'a découvert cette année en re-regardant les informations. Il n'y a pas très longtemps, on s'est dit, tiens, dis donc, la plupart des rivières sont à sec, tous ces gros fleuves, Danube et compagnie, il n'y a plus beaucoup d'eau dedans. Et là, on s'aperçoit que vraiment le problème est mondial. Donc,
ça vous a rattrapé cet été, quoi.
Ah bah nous, effectivement, on a vu. Hein.
La première sécheresse comme ça, aussi intensive, ouais, ça fait... Enfin, depuis que je suis agriculteur, j'ai jamais connu, ça fait 10 ans.
Et il a jamais fait aussi chaud dans ce coin-ci de la Bretagne. Enfin, tous les records ont été battus.
Bon, a priori, ouais, parce qu'on a quand même eu des 44-45 degrés les jours où ça a commencé à cramer dans la lande. Donc c'était un brasier pas possible, quoi. Donc ça a bien démarré et avec le vent qu'il a fait, c'était des super bonnes conditions pour que Lucifer se montre, hein, surtout aux portes de l'enfer, surtout devant Lyonnais, quoi.
Ça s'appelle comme ça l'endroit en plus.
Ça s'appelle comme ça, ouais.
1700 hectares de lande bretonne. Carbonisé.
Ouais. Après, on peut peut-être aller faire un tour.
Ouais, vous ouais, voilà, ouais.
Les 500 personnes évacuées ont toutes pu rentrer chez elles, comme ici à Saint-Rivoile, mais avec une certaine appréhension pour cette éleveuse.
Ah ouais, là, c'est avec la pluie qui est tombée. Il y a des grosses flaques et des grosses mares.
Mais très vite, le soulagement laisse place à la colère.
Ouais. Alors, la lande, elle commence quand ?
Alors, tu vois, on va arriver là-haut.
Ah, oui,
en fait, quand
ah mais là, on voit la chapelle.
On est vraiment au pied du Mont-Saint-Michel.
C'est cette colline qui est maintenant complètement pelée. Enfin, cette montagne. Enfin, il faut dire montagne ici.
La ligne de crête aussi qui est complètement...
Et toute la ligne de crête. Ah ouais.
Tout est cramé.
C'est un paysage de désolation.
Oui. Maintenant, j'arrive à revenir ici sans pleurer, sans... Mais c'est super dur. C'est super dur parce que, tu vois, quand tu vis dans un milieu comme ça, où tous les jours, tu travailles ici avec les animaux, avec la nature... Et en une nuit, t'as plein de... Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas simple. En une nuit, il n'y avait plus rien. Voilà, il n'y avait plus rien. Tout était noir. Vraiment, c'était très, très, très près. Tu voyais les flammes, donc avec la fumée qui commençait à se soulever, à venir. Je sais pas, elle faisait peut-être 4-5 mètres de haut. J'arrive pas à me rendre compte et elle courait très, très vite. Hein. Et moi, je pensais à mes animaux et je me suis dit que là, si on part, comment on va les retrouver, quoi. Et là, on s'est dit, on va tout perdre. Tout ce qu'on a créé depuis 10 ans, et comme ça, d'un claquement de doigts, on n'aura plus rien, quoi. Et la moindre odeur de fumée nous fait sursauter. La moindre flamme, ça nous serre le cœur. Et on se dit, mais ouais, on a été traumatisés au final.
Là, vous pestez parce qu'il y a un plastique qui traîne.
Je ne supporte pas ça. Merci les randonneurs. C'est une catastrophe.
Et hop, le plastique est dans la poche.
Ah bah oui, normal. On est plus écolo que les écolos.
On va rentrer parce que là, la pluie commence à redoubler avec un vent.
Alors, regarde celui-ci.
Il y a un beau nuage qui se prépare. Je ne sais même pas si on va arriver à temps avant que ça éclate, l'orage, à nouveau.
Quand il pleut, ça va. Parce qu'on se dit, bah voilà, c'est bien, les feux ne vont pas repartir. Il pleut. Mais dès qu'il commence à y avoir du soleil, et avoir de la chaleur, bon maintenant là on est au mois de septembre, ça devrait le faire. Hein. Mais on se dit, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un endroit où ça reparte et puis...
Eh, ça y est, on va se faire rincer là. J'essaie de protéger mon micro.
On a mis...
Voilà.
Ah, la pluie qui revient.
Toi t'as ton épuisette, tu t'appelles comment ?
Tim.
Est-ce que tu as une vache que tu préfères ici ?
Il y a une vache que je préfère, c'est un taureau et il s'appelle Girard, il est orange.
Il est costaud ?
Oui, très très.
Nom de Dieu, c'est qu'il n'y a aucun nuage dans ce ciel de bleu, un pur paysage de rien que du soleil et de sécheresse.
Depuis notre passage l'été dernier, la famille Le Trust a reçu de nouvelles parcelles pour l'éco-pâturage et entretenir les paysages. Et l'association Bretagne Vivante a même réussi à faire multiplier par 7 la réserve naturelle du Venec, 334 hectares de zones humides protégées. On quitte donc la Bretagne sous la pluie sur cette aire de Dickenegarn, sécheresse. Un titre de 76, une autre année de grande sécheresse où les monts d'Arrée avaient déjà flambé. Et on continue notre voyage dans le temps qu'il a fait l'été dernier. Car ailleurs, cette sécheresse a fait d'autres dégâts, d'autres signes que le changement climatique est arrivé près de chez nous. Comme au parc national des Écrins dans les Alpes. Là-bas, à près de 4000 mètres, la moitié des glaciers a déjà disparu. Et celui de la Meije ne reçoit presque plus de neige.
Je reviens du monde d'avant. Dans les Alpes, quand les glaciers fondent.
On est en altitude, il y a du vent.
Oui.
On passe un tout petit ruisseau.
De l'Alpe.
Oui, alors un des points forts du jardin, c'est l'eau qui circule un peu partout, des petites rivières, des petites mares. Ça contribue à rendre l'endroit extrêmement agréable.
Ah, ça l'est, là, je vous le confirme. On est à 2100 mètres d'altitude ici, à peu près.
Exactement.
Et c'est très joli parce qu'on voit que c'est vraiment un petit jardin avec de la végétation qui pousse au milieu des roches.
Voilà.
Ah, mais on voit un peu de neige en face sur le massif.
Tout à fait. Donc ça, c'est le glacier qui nous surplombe, hein, qui contribue beaucoup à la beauté du jardin. Et là, on a un faucon cresserelle, regardez.
Ah oui. Absolument. Qui plane sans bouger, hein, sans donner un coup d'aile tellement...
Sur place absolue, alors qu'il y a un vent à décorner les bœufs. Regardez ça. Sur place, absolument parfait.
C'est magique.
À cheval sur deux départements, les Hautes-Alpes et l'Isère, le parc national des Écrins couvre 90 000 hectares de montagne à l'intérieur d'un triangle Grenoble-Briançon-Gap.
Nous voici donc au jardin botanique du Lautaret que nous fait visiter Jean-Gabriel Vallet, son directeur. Ce jardin alpin, créé il y a 120 ans, d'une incroyable richesse et surtout une station de recherche de l'Université de Grenoble et du CNRS, avec des programmes comme le programme Alpage Volant, où l'on a monté et descendu des prairies d'altitude de plus ou moins 500 mètres pour étudier comment elles s'adaptaient au changement climatique. Car à ces altitudes, descendre de 500 mètres, c'est gagner 3 degrés de température, soit à peu près la hausse qui nous attend tous d'ici la fin du siècle. Mais l'autre chose que l'on peut y observer, c'est que l'été dernier, à cause de la chaleur, la majorité de ces 2000 espèces de plantes de montagne du monde entier ont fleuri avec plus de 3 semaines d'avance. Certaines y ont même fleuri pour la première fois. Peut-être de quoi convaincre les derniers climato-sceptiques ? Ou peut-être pas. On continue donc la visite.
Un petit labyrinthe, là ?
Sur le haut du jardin, on présente les différents milieux naturels des environs, avec les plantes du coin. Et puis le bas, donc, ce sont les plantes des montagnes du monde. Donc l'Himalaya, là on est en Espagne. Et puis là par contre, on est en Patagonie. Là on est dans les Pyrénées. Ici on est plutôt la Sibérie, voilà. Là on est au Moyen-Orient. Ça, c'est les Carpates, là. Là on est dans les Carpates. Alors ici on est dans les terres australes.
Voyageons. Ah, c'est bien pour voyager sans bilan carbone trop important.
C'est joli, hein. Ou celle-là, regardez, ouais. Celle-là.
Campanule.
Regardez celle-là.
De Chine. Vous avez observé tout un tas de choses extraordinaires cet été, à cause de cette élévation des températures.
Oui, tout à fait, parce que pas assez de neige. Enfin, c'est lié à la sécheresse. En fait, cet été, on a eu deux choses, hein. On a eu une canicule, comme partout en France. Alors bon, je veux dire, nous, ici, on appelle ça canicule. Quand on dépasse 26-27, on commence à parler de canicule. Hein.
Ouais, mais à 2100, c'est pas rien.
Mais ça s'est couplé avec une sécheresse. Et une sécheresse printanière. Enfin, voilà. Donc, très peu de neige. Neige qui, en plus, a fondu tôt. Donc, démarrage de la saison tôt. Donc, on a eu 3 semaines d'avance. Hein. Ouais. Peut-être même un mois.
Et ça, c'était la première fois que les fleurs...
Ah oui, non, ça, on n'avait jamais vu ça. Non, franchement, bon, on peut reprocher aux journaux d'en avoir fait beaucoup ou parler que de ça, mais honnêtement, c'est pas complètement faux. On a vraiment eu un été absolument incroyable. D'ailleurs, c'est ce que disent les scientifiques du GIEC, hein. La France a connu, en fait, cet été, à peu près tous les problèmes que nous promet le GIEC et qu'on écoute d'une oreille distraite en se disant « Allez, c'est juste des gens qui doivent être un peu pessimistes. » Et là, on a eu droit à tout. On a eu droit qu'il n'y avait plus assez d'eau dans les rivières, qu'on ne pouvait plus arroser les fruitiers, qu'il n'y avait plus assez d'eau pour refroidir des centrales, que les forêts prenaient feu, que les rendements agricoles se cassaient la figure, que l'activité touristique était impactée parce qu'il faisait trop chaud.
Que les glaciers fondent vite.
Bon, alors ça, les glaciers qui fondent vite, ça, on y est habitué, surtout ici. Mais bon, c'est complètement fou, quoi. Donc là, on a eu droit à tout, en fait.
Et là, on passe dans un côté presque sous-bois, là.
Alors là, ici, on a la star du mois de juillet, hein,
ah bon,
qui cette année était plutôt la star du mois de juin. C'est le pavot bleu, hein, et qui vient de l'Himalaya. C'est une plante absolument sublime, quoi. C'est un bleu absolument incroyable. On est à l'abri du vent, là, on n'entend plus le vent.
Non, d'ailleurs, c'est bien. On entend là
des visiteurs.
Bonjour, mesdames.
On change de pays.
Voilà.
Vous êtes où, là ?
Oh, bah là, on est dans l'Himalaya.
Ça va, comment vous trouvez l'Himalaya, alors ?
C'est super.
Nous habitons Saint-Raphaël. Bon, alors pour nous, on a besoin, en étant au bord de mer tout le temps, de venir respirer au moins une semaine.
Parce que vous avez mal respiré cet été à Saint-Raphaël.
Enfin, c'est de la folie, quoi.
Moi, j'ai perdu des plantes.
Tout a cramé dans le sud, chez vous.
Presque, bon. Alors maintenant...
En plus, il y avait des arrêtés pour plus arroser ses plantes et ses
pelouses. Non, mais alors ça, oh.
Ah bon?
Oui.
Non, vous avez pas respecté la... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, alors, des nouvelles qu'il y a eu tout cet été sur les températures exceptionnelles, sur le changement?
La connerie.
Et vous y croyez pas, vous? Vous êtes climato-sceptique.
Non. Tel que les gens vous le présentent.
Il y a toujours eu des changements climatiques. Vous avez eu l'air glaciaire.
Non, c'est invraisemblable. Depuis 1416, il y a des sites de chaleur, de froid, de chaleur. Au temps de la Révolution de 1789, où les gens crevaient de faim parce qu'il faisait extrêmement froid. Donc, il n'y avait pas eu les récoltes. Mais enfin, il faut voir ça sur un temps... c'est plutôt la climatologie.
Là, je suis obligé d'intervenir parce que vous n'avez pas traversé l'espace muséographique.
Ah non. À cette fois-ci, non.
Voilà, parce que ce que vous venez de dire, par exemple,
les cycles.
Voilà, c'est en fait, je me permets juste de vous le résumer.
Vous m'expliquez.
Mais je vous le résume en une phrase. Vous avez trois choses différentes. La première chose, c'est les cycles liés au positionnement de la Terre par rapport au sol.
Tout à fait. Ce qu'il y a en ce moment,
Oui, il paraît qu'en ce moment, la Terre a un petit peu...
Les changements d'angle là, de la Terre par rapport au Soleil, ça c'est quelque chose qu'on connaît, sur des cycles de 50 ou 100 000 ans. Oui. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment.
Oui, ça c'est OK.
Le coup du petit du coup de froid au moment de la Révolution française,
et donc
on explique qu'il s'est mis à faire froid, ça, ce sont des phénomènes locaux, qui vont être assez courts, et surtout qui ne sont pas globaux. D'accord. C'est-à-dire que quand ça se passe en Europe, ça ne se passe pas en Australie.
Alors que ce qui se passe
en ce moment...
C'est-à-dire comme ça impacte les pôles, il est évident que quand le pôle commence à se déglinguer, tout se déglingue, tout trinque. Et
le pire, c'est qu'il ne s'est pas encore complètement déglingué.
Non, je sais bien.
Et ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est une explosion absolument monstrueuse des gaz à effet de serre.
Oui.
Et un changement à l'échelle de toute la planète,
oui,
considérablement plus rapide que les changements liés au positionnement des planètes,
c'est vrai,
et qui est absolument dramatique.
Oui.
Voilà. Ouais. Donc vous ne direz plus alors que c'est des foutaises, alors, le changement climatique actuel.
Je crois que ce qui nous agace, c'est la façon dont on veut nous culpabiliser pour tout.
Et nous donner ce sentiment d'angoisse permanent.
Alors donc, ils en font trop.
Non, mais ils ont un petit peu raison de nous culpabiliser.
Non, la façon...
Puisque c'est un peu de notre faute.
Ça, oui, c'est vrai.
L'assignation de la consommation. Mais les vieux étaient contre l'assignation de consommation.
Dire, avez-vous bien éteint votre chauffe-eau? Enfin, on a des interdits, on nous infantilise. Mettez le masque de telle heure à telle heure. Enlevez-le parce que vous sortez comme ça.
Moi, je retiens que vous m'avez dit que je n'avais pas dit que des bêtises.
Oui, monsieur.
Là, maintenant, en ce moment, ici même... On est déjà à plus 2 degrés.
C'est bien que si ça continue comme ça, le glacier qui est en face de nous, d'ici la fin du siècle, il aura disparu, comme la plupart des glaciers des Alpes.
Mais je crois que la question ne se pose même pas, en fait. C'est juste de savoir quand est-ce qu'il va disparaître maintenant. Enfin,
Oui, ça, je ne sais pas mesurer, mais enfin...
Bon, bonne balade, mesdames. On va vous laisser profiter.
On est très contents qu'il y ait le jardin.
Ah, oui.
Voilà.
Allez,
bonne journée.
Au revoir.
Jean-Gabriel Vallet, c'est intéressant comme interaction.
Ah oui.
Et puis vous avez été vachement pédago et vachement calme. On a essayé de prêcher dans le désert.
Mais est-ce qu'on a vraiment prêché dans le désert?
Je sais pas, écoutez, j'ai peur que là, jusqu'à ce soir, elles soient convaincues. Mais moi, dès qu'elles vont rallumer ces news, elles vont...
Alors peut-être, effectivement, on partait d'une situation quand même assez caricaturale. J'ai espoir qu'on ait semé une petite graine.
Mais c'est l'espoir qu'on a un peu tous par rapport à cet été, par rapport à nos contemporains, à défaut de nos compatriotes.
Enfin, ce qu'on essaye d'expliquer aux visiteurs, les experts disent tous qu'il est possible de faire des choses. Voilà, ça c'est quand même très important à entendre. Bon, là on s'excite parce qu'il y a effectivement 2-3 milliardaires et 2 ou 3 joueurs de foot qui n'ont peut-être pas complètement percuté le problème, mais c'est pas juste une catastrophe qui nous tombe dessus, il n'y a plus qu'à la regretter. Il y a des choses à faire, il y a des décisions à prendre, il y a des possibilités d'améliorer les choses. Voilà, et ça c'est quand même très important.
France Inter.
Alerte canicule. Pour vous protéger et protéger les autres, rebellez-vous. respectez un kilomètre de distance avec les dirigeants des 100 entreprises les plus polluantes et appliquez systématiquement les gestes barrières. Buvez de l'eau, n'utilisez pas de climatiseur, arrêtez la viande, consommez des légumes sans pesticides, devenez zéro déchet, détruisez votre voiture, arrêtez les voyages en avion, prenez le vélo, ouvrez votre cœur aux autres, écoutez la nature.
Qu'est-ce que c'est cette petite... Une petite hermine ? Et c'est assez rare de les voir comme ça, aussi proches de nous et pas fuyantes. Hop, elle se faufile de rocher en rocher et puis elle ressort. Peut-être que comme la fréquentation a baissé, peut-être qu'elle commence à ressortir un peu, elle est un peu moins farouche. En tout cas, c'est mignon avec ce ventre blanc, cette longue queue, cette petite frimousse là qui nous...
Et puis cet hiver, elle change de couleur. Là, elle est brune et puis cet hiver, elle sera totalement blanche.
Hop, et voilà, elle ressort la tête pour voir si on est toujours là.
Elle est vraiment curieuse là.
Ouais.
Elle se rapproche.
Avec le ventre blanc.
C'est vraiment mythique.
Encore une hermine. Et encore, elle nous scrute au milieu du sentier. Non, mais vous avez organisé le truc exprès pour ma venue, là. C'est pas possible.
Non, mais peut-être...
Ouais, on leur a dit que c'était la radio et qu'on les filmerait pas, elles sont sorties.
Non, mais peut-être j'ai vu, je sais pas, 4 ou 5 dans ma vie. Et là, on a vu toi.
Ah, bah alors, on est vraiment chanceux aujourd'hui. Ouais. Elle vient, elle revient, elle passe la tête. On va lui faire un peu peur là parce qu'on va passer juste à côté, mais ça y est, hop, elle s'est cachée dans le rocher, le temps de nous laisser passer.
Je reviens du monde d'avant.
Alors j'avoue que j'ai un peu l'impression de piétiner les plates-bandes de Denis Chessou, qui connaît bien le massif des Écrins et le glacier de la Meije où nous le trouvons. Mais après les deux charmantes dames climato-sceptiques sur les bords, je suis allé prendre le grand air de la montagne. En tout cas avec des gens qui se posent des questions sur ce qui s'est passé cet été et ce qui va venir après. Car on l'a compris, ici comme dans d'autres massifs, les chaleurs extrêmes de l'été ont accéléré la fonte des glaciers plus vite que les estimations des scientifiques. Et si la biodiversité doit s'adapter, les humains aussi sont mis à rude épreuve. D'autant que 90% de l'économie locale dépend du tourisme, que les stations de ski voisines carburent aux canons à neige, qu'on s'obstine à vouloir construire des téléphériques toujours plus haut, alors que des refuges ont déjà fermé, menacés d'effondrement et que d'autres sont privés d'eau. Alors je suis allé retrouver deux authentiques amoureux de ces montagnes.
Bonjour, je suis Erin Smart, je suis guide ici à La Grave. Je suis américaine et ça fait pas mal de temps que j'habite à La Grave. Ça, c'était Marlo qui a roté.
C'est un petit bébé tout mignon dans son porte-bébé avec ses lunettes bleues.
4 mois et demi, il a.
Et c'est un petit de la montagne alors, lui.
Oui.
Il est content quand on est dehors.
C'est ça.
Oui, il secoue les pieds là.
Et donc, moi, c'est Benjamin Ribert. Je suis aussi guide de haute montagne, président de la compagnie des guides Oisans Écrins. Donc une association qui regroupe les professionnels du Parc National des Écrins.
Cette montagne, ce massif, vous y vivez, vous en vivez. Sauf qu'en plus de ça, vous essayez de réfléchir au futur de ce petit bébé, ici, dans cette région.
Ouais, exactement. Là, ça, depuis qu'on a décidé de l'avoir et qu'il est arrivé, c'est vrai que ça a changé, je pense, notre perception du futur. Et avec un enfant, c'est vrai qu'on se projette un peu plus loin, avec des nouvelles problématiques qui sont apparues. Il y a déjà quelques années, mais dont on a pris vraiment conscience cette année avec un été qui a été extrêmement chaud. Ouais. Donc on aimerait bien qu'ils puissent boire l'eau de source qu'on boit en ce moment et pas de l'eau en bouteille.
Bon allez, on marche. On va par où là alors ?
Là on est parti des courses, un petit hameau au-dessus de Villard d'Arène et puis on va aller vers le lac du Pontet pour avoir une vue globale du versant nord de la Meije où on a tous les glaciers.
Allons-y. Et là, on prend un petit sentier bien raide. Il y a plein de fleurs. On prend le petit ruisseau en bas.
Donc là, on est...
Ouais.
On a une petite marmotte des Alpes, pas petite. Ah, elle va peut-être rentrer dans son terrier. Je disais peut-être pas si petite que ça. On s'approche de l'hiver. Elle a fait des bonnes réserves et on voit qu'elle est bien grasse pour aller passer l'hiver au fond du terrier.
On a fait 50 mètres après l'hermine, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais vraiment, je pense que là, les deux derniers mois, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et là, ça fait une semaine qu'on sent que la fréquentation s'est calmée et les animaux doivent ressortir. Ils ont repris des droits sur leur territoire. Ouais. Hop, elle nous regarde. Et si on s'approche trop près, elle va se mettre à crier pour prévenir les autres.
Elle monte la garde, quoi.
Elle est tranquille.
Est-ce qu'on sait d'ailleurs si elle souffre du changement climatique ?
En fait, la marmotte, son principe de fonctionnement, c'est qu'en dessous d'une certaine température moyenne, elle va se mettre en sommeil. Et ça arrive de plus en plus souvent au milieu de l'hiver d'avoir une vague de chaleur très forte. Et en fait, qui arrive à faire remonter la température assez haut pour que la marmotte se réveille.
Sauf que c'est pas le printemps.
Sauf que c'est pas le printemps, c'est encore plein de neige. Et si derrière on a une énorme vague de froid très rude ou un hiver qui dure en longueur, le fait de se réveiller, en fait, elle dépense beaucoup beaucoup d'énergie et elle le paiera sur la fin de l'hiver. Ouais. Donc cette année, il y a des scientifiques qui ont compté les marmottes. Apparemment, il y a une grosse mortalité chez les juvéniles.
Mais là, c'est vraiment joli, là, ces alpages de fin d'été. Là.
Ouais.
Il y a des chardons, il y a plein de fleurs. On voit des petits papillons, et tout un tas d'insectes. Là, on est en train de passer du coup les derniers arbres, sur ce ouais. versant en tout cas. C'est un peu moins raide, c'est vrai.
Et ici, c'est la piscine derrière la maison, lac de Ponté.
Ah, c'est génial, tout d'un coup on le voit qu'au dernier moment en plus.
Ouais.
C'est un petit lac quoi. Il fait la taille de quoi? De 3 terrains de
football. Ouais, à peu près. Et c'est profond en plus.
On voit l'eau être complètement ouais. transparente.
Ouais, on voit tous les cailloux et aussi si on attend un peu, il y a des poissons.
Ah, ça va?
Ça va, ouais.
Ah mais c'est impressionnant parce qu'on est à quoi ici? 2000?
À peu près, je crois.
Ouais. Et l'eau, je pense qu'elle dépasse les 20 degrés en fait maintenant.
Elle est parfaite pour nager.
Et là, on voit des randonneurs qui font le tour du lac avec leur bâton de marche de l'autre côté et leur sac à dos. Et si on tend l'oreille, on entend les cloches des vaches qui sont tout en haut.
Ouais.
Il y a Marlo qui veut qu'on bouge là.
Ouais. C'est peut-être le vent là qui s'est levé un peu.
Ça, c'est les marmottes.
Ouais, il y a des randonneurs qui ont dû s'approcher un peu trop près du terrier. Et elle prévient les copines pour rentrer.
Au début, moi, je pensais que c'était un oiseau, un truc. Ça pourrait ressembler ouais. à un ouais. faucon ouais. ou un ouais. pêle.
En fait, elle crie.
Ouais. Et là, on voit les touristes qui prennent la photo. Alors que c'est marrant, comme ils sont tout côte à côte, ils prennent tous les trois la même photo.
Et s'ils prennent la photo légèrement en direction du sud-est, en fait, ils peuvent avoir la même photo qu'un des fonds d'écran Microsoft ouais. de Windows.
C'est vrai ?
Windows a choisi une photo qui regarde les agneaux avec le lac du Ponté.
Mais je la vois, cette photo-là. Ben ouais, très bien. Ouais, le fond d'écran automatique. Ouais,
Elle est prise de là-bas.
Alors, ce que vous êtes en train de me dire, Benjamin, c'est que si je sors mon vieux fond d'écran Windows, je pourrais voir si, depuis, les glaciers ont reculé ou pas.
Exactement.
Des tonnes de glace qui disparaissent chaque été de plus en plus vite.
Les glaciers en péril face au réchauffement climatique. Leur fonte s'accélère dans le département des Hautes-Alpes.
S'il continue à faire aussi chaud, le glacier va perdre l'équivalent de 15 ans de fonte cet été.
En 40 ans, le front du glacier a reculé d'un kilomètre.
Une catastrophe pour l'environnement accéléré par l'activité humaine.
Et alors cet environnement, il est en train de changer à vitesse accélérée puisque, d'après les estimations, d'ici la fin du siècle, il n'y aurait plus de glaciers dans tous les écrins.
Bah, même avant la fin du siècle, l'avant-dernier rapport du GIEC, c'est quoi, c'est 2014, annonce 80% de la masse glaciaire totale des Alpes disparue. Et nous, on est dans les glaciers les plus au sud de la chaîne des Alpes, donc ce sera les premiers qui seront impactés. Les glaciers, à l'orée 2050, auront pour la plupart disparu. Donc en fait, la montagne, il y a une partie de la glace qu'on voit, donc les glaciers qui sont devant nous, et après, il y a une majeure partie de la glace qui est en fait à l'intérieur des montagnes, et qu'on appelle pergélisol en français, ou permafrost en anglais. Et c'est un peu comme un ciment qui tient les blocs de rochers entre eux. Et avec les températures exceptionnelles qu'on a en ce moment, bah les blocs tombent et on a plein d'écroulements.
Par exemple aussi, nous en face de la maison, vers le 15 août, il y avait des grandes chutes de pierres. C'est énorme. On entend les avalanches des pierres pas souvent maintenant. Ouais.
Ah oui.
Ouais, en face de la maison.
Les écroulements rocheux, on n'a aucun moyen de prévoir ça. Par contre, on commence à avoir quelques indices par les scientifiques, par exemple éviter les faces nord au-dessus de 2800 mètres d'altitude et privilégier les faces sud en dessous de 3003. Parce qu'en fait, les faces sud en dessous de 3003 ont presque déjà toutes perdu leur pergélisol. Donc les écroulements qui devaient avoir lieu ont déjà eu lieu.
C'est-à-dire que là, je voyais au jardin botanique du Lautaret, on m'expliquait comment les plantes et la végétation s'adaptaient
au changement climatique, ou en montant, ou en descendant, ou en changeant son rythme de floraison, par exemple. Mais c'est pareil pour vous autres aussi, quoi.
Ah bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix, on est contraint.
Ouais. En fait, c'est maintenant. En fait, je pense que quand j'étais plus jeune, j'ai imaginé c'était plus dans 80 ans. Mais en fait, c'est maintenant. C'est vraiment... c'est dans notre vie. Et il faut faire quelque chose maintenant. C'est pas demain. C'est aujourd'hui.
Je pense que... Moi, je me suis toujours dit que oui, à la fin de ma vie, peut-être que je verrai la fin des glaciers. Et en fait, on va l'avoir beaucoup plus tôt, quoi. Et même en étant hyper concerné par le changement climatique, en fait, même nous, on a fermé les yeux, en fait. On s'est toujours dit que ça allait arriver, mais c'est tellement improbable et inconcevable qu'on se disait, oui, ça va arriver, mais on le verra peut-être pas, ou ce sera dans plus longtemps.
Et nous, moi, je pense souvent, on vient d'acheter une maison ici, et comme on voit d'ici au lac, ça, c'est le source d'eau pour nous. Et je me demande souvent, dans 10-15 ans, est-ce qu'on va avoir de l'eau ici? Ça va disparaître, on ne sait pas combien de temps et qu'est-ce qu'on va faire.
Il y a des vallées près d'ici qui ont déjà des problèmes d'eau, quoi.
Ah oui, oui. Même cette vallée, le refuge Pic-Mag-la-Grave. En fait, il n'y a plus d'eau.
Mais là, tout le monde a bien pris conscience. Donc, en Bretagne, apparemment, ils ont amené des citernes d'eau. Nous, dans les Hautes-Alpes aussi, on a eu ça, en Haute-Savoie. Mais malgré ça, on a encore des exemples, notamment sur la Haute-Savoie. Pas d'arrosage de potager 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et les golfs et les piscines étaient autorisés, je crois, que 22h, 6h.
Il y avait une plage horaire. C'est juste horrible.
C'est pour ça qu'il y a eu des cas de sabotage de golf cet été.
Ouais, apparemment, il y a eu Gap, où le local technique a été incendié. Il y a eu des trous de golf dans lesquels ils ont coulé du ciment. Et il y a... J'ai vu passer ça, là, c'est un copain maraîcher. Bah, justement, lui, il est allé planter quelques légumes sur un practice, ouais.
Bon, si ça arrive ici, on va faire un peu de pommes de terre.
Ouais, nous, on ira planter nos pommes de terre dans un terrain de golf. C'est le seul endroit où ce sera arrosé. Là, cet été, on s'est vraiment retrouvé face au mur, avec des incendies exceptionnels, avec des rivières qui ont été asséchées, avec des activités qui étaient plus possibles, plus possibilité de faire du canyon ou du kayak. Donc, on se retrouve vraiment beaucoup de personnes face au mur. Et c'est ça qui est un peu triste et qui, moi, en fait, me... fait ressentir un peu pas inutile, mais un sentiment où j'ai l'impression que je peux pas faire grand chose, quoi. Enfin, je veux bien continuer à pisser sous la douche et à débrancher le wifi, quoi, mais on est toujours à taper un peu sur les petits gens, et puis avec une élite qui est un peu décomplexée et sans limite, quoi. Ils sont en roue libre, en fait. Enfin, ils n'ont pas vraiment l'intention de changer.
Pour le petit Marlot.
Ouais. Non, mais pour Benjamin, moi, je ne sais pas, mais nous, on a hésité beaucoup de même avoir un enfant avec l'avenir qu'on a en ce moment. Et au final, on va bien en famille. Et on
puis il est plutôt réussi, à ce que je vois.
Mais ça fait peur, hein. Ça fait vraiment peur. Oui, je réfléchis souvent à qu'est-ce qu'on peut faire pour le monde, pour Marlot, pour la terre, pour... Et ouais, le sport, le ski, c'est vraiment important pour moi. C'est ma vie, mais la vie, c'est vraiment... c'est plus que ça. Hein. Et qu'est-ce qu'on va faire dans 20 ans, 40 ans Parce que ouais, c'est maintenant, ouais.
J'espère qu'on aura lutté assez pour avoir changé le modèle avant que ce soit trop tard, quoi.
Merci à tous les deux. Et à tous les trois, pardon.
Merci.
Merci.
Le cri de lanceuse d'alerte des marmottes sera-t-il entendu? Ça reste à voir quand le Conseil des ministres dissout un mouvement comme les soulèvements de la Terre et fait interroger ses membres par la sous-direction antiterroriste, sans aucune poursuite d'ailleurs. Un grand merci en tout cas à toutes et à tous en Bretagne et dans les Hautes-Alpes. Merci aux hermines, aux faucons Cressel et aux courlis cendrés. Souviens-toi l'été dernier quand le changement climatique est arrivé près de chez nous, un reportage réalisé par Clément Douguier, un podcast que vous pouvez retrouver avec les liens et les photos sur le site de l'émission sur franceinter.fr. Et nous, on vous donne rendez-vous le week-end prochain au sud de la Floride cette fois, avec ceux qui sont prêts pour le changement climatique et ceux qui ne le sont pas.